Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié pour la première fois en 1960 et régulièrement réédité, Les structures anthropologiques de l'imaginaire est le grand ouvrage théorique de Gilbert Durand, philosophe, sociologue et anthropologue français. Le livre propose une méthode comparatiste pour étudier les images, symboles, mythes et récits qui organisent les cultures. Durand refuse de réduire l'imaginaire à une fuite hors du réel ou à un simple décor de la pensée. Il le traite comme une activité structurante liée à la fois au corps, aux affects, aux contraintes du temps et aux formes sociales. Son projet dialogue notamment avec la psychologie analytique de Jung, la réflexion de Bachelard sur les images matérielles et les études de mythes et de religions. À partir de vastes corpus littéraires, religieux, ethnographiques et iconographiques, il établit une classification des grands schèmes de l'imagination. Cet essai dense vise donc moins une interprétation isolée de chaque symbole que la mise au jour des régularités qui relient gestes humains, représentations et visions collectives du monde. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le trajet anthropologique relie les réflexes du corps aux formes culturelles, le concept central du livre est le trajet anthropologique. Durand cherche à dépasser une opposition trop simple entre nature et culture. Les images ne viendraient ni seulement de dispositions biologiques, ni seulement de conventions historiques arbitraires. Elles se constitueraient dans un échange continu entre les dominantes réflexes du corps, les expériences sensibles, le milieu social et les traditions symboliques. Cette thèse donne au symbole une base concrète sans le réduire à un mécanisme physiologique. Par exemple, les expériences de verticalité, de chute, de rythme ou de digestion peuvent orienter des familles de représentations. Mais leurs formes précises sont élaborées par les religions, les mythes, les arts et les institutions. Le trajet décrit donc une réciprocité, les conduites corporelles disposent certaines images, tandis que les univers symboliques donnent sens et forme aux expériences vécues. Cette approche explique pourquoi des motifs comparables peuvent apparaître dans des civilisations éloignées, tout en recevant des usages et des valeurs différents. Elle fournit un cadre utile pour éviter deux excès fréquents dans l'interprétation, le psychologisme individuel, qui ignore les héritages collectifs, et le relativisme absolu, qui ne voit plus aucune continuité entre les œuvres ou les sociétés. Deuxièmement, les schèmes constituent le niveau dynamique entre gestes, images et symboles. Durand ne construit pas son classement à partir de listes fixes de symboles. Il privilégie les schèmes, entendus comme des orientations dynamiques de l'imagination issues de gestes fondamentaux. Le schème est plus général qu'une image particulière et plus concret qu'une idée abstraite. Il permet de comprendre comment des figures très diverses peuvent appartenir à une même logique imaginaire. Les gestes de se dresser, séparer, monter, contenir, descendre, unir ou rythmer peuvent ainsi générer des constellations symboliques. Une arme, une lumière ou une hauteur ne signifient pas automatiquement la même chose dans chaque contexte, mais elles peuvent relever de dynamiques communes de distinction et de maîtrise. De même, une coupe, une demeure ou une grotte peuvent participer de gestes de protection, de contenance ou de retour. Cette médiation par les schèmes est essentielle à la méthode. Elle empêche de confondre la ressemblance matérielle de deux objets avec une identité de sens, et elle évite aussi de dissoudre les images dans des associations libres. Pour Durand, interpréter consiste à repérer les relations organisatrices entre gestes, objets, récits et valeurs. Le symbole devient alors une structure de transformation susceptible de passer de la sensation à la figure mythique, puis à une expression littéraire, rituelle ou sociale. Troisièmement, le régime Durand organise les images de séparation, de lutte et de verticalité. Une partie majeure de la typologie durandienne est le régime Durand de l'imaginaire. Il rassemble des images structurées par une logique de séparation et de confrontation face aux menaces du temps, de la confusion et de la mort. Dans ce régime, la pensée imagée privilégie la lumière, la hauteur, la verticalité, la pureté, la netteté des oppositions, les armes et les figures héroïques. Il ne faut pas le comprendre comme un inventaire décoratif ni comme un jugement moral favorable. Durand y reconnaît une manière de donner forme à angoisse en distinguant ce qui menace de ce qui protège, en opposant le haut au bas, le clair au sombre, ou le héros à un adversaire. Cette organisation comprend notamment des tendances qualifiées de schizomorphes, au sens structural de division et de classification, non au sens clinique. La précision est importante, le livre propose une anthropologie des images et non un diagnostic des personnes. Le régime Durand aide à analyser des récits où le salut prend la forme de la conquête, de la purification ou de l'élévation. Il permet également de voir comment certains discours politiques, religieux ou artistiques utilisent des contrastes tranchés pour rendre le monde intelligible. Sa portée critique tient à cette capacité de décrire une grammaire symbolique sans conclure que toute image de lumière ou de combat possède une signification universelle et immuable. Quatrièmement, le régime nocturne transforme le temps par union, intimité et cyclicité. En regard du régime diurne, Durant distingue un régime nocturne qui ne répond pas au temps par la coupure héroïque, mais par des images de conciliation, de profondeur, de refuge et de répétition. Son orientation ne désigne pas simplement obscurité ou passivité. Elle recouvre deux dynamiques principales, une tendance mystique, marquée par la descente, la contenance, la chaleur de l'intérieur et la fusion des contraires, puis une tendance synthétique ou dramatique, attachée au rythme, au cycle et au récit qui articule des oppositions dans le temps. Les symboles de la demeure, du ventre, de la nourriture, de eau profonde, de la nuit protectrice ou du retour peuvent relever de ces réseaux, selon leur fonctionnement dans une œuvre ou un rite. La mort elle-même peut alors être figurée non comme ennemi à vaincre, mais comme passage, repos, renouvellement ou insertion dans un ordre cyclique. Cette distinction éclaire la diversité des réponses imaginaires à la finitude. Certaines cultures ou créations valorisent la maîtrise et le dépassement, tandis que autres cherchent une réconciliation avec le devenir. Durant ne présente pas ces régimes comme des boîtes étanches. Les récits puissants les combinent souvent, créant des tensions entre affrontement, apaisement et recomposition. La valeur de cette grille est de rendre ces tensions lisibles plutôt que de réduire une œuvre à un thème unique. En dernier lieu, une méthode comparatiste pour lire mythe. Œuvre et production symbolique, les structures anthropologiques de l'imaginaire proposent une méthode de lecture applicable à des matériaux très variés. Mais elle exige de la prudence. Le chercheur doit observer les répétitions, les oppositions et les regroupements de figures dans un corpus, puis les rapporter à des schèmes et à des régimes. Une analyse ne peut donc pas se limiter à déclarer que tel objet possède une signification secrète. Elle doit examiner sa place dans une constellation. Une image de haut peut signifier menace, purification, dissolution, nourriture ou renaissance selon les relations qui la lient au personnage, au geste, au rythme narratif et aux autres symboles. Cette attention au réseau explique la postérité de Durant dans les études littéraires, les recherches sur les mythes, les arts et les représentations collectives. Elle peut aider à interpréter des rêves ou des images contemporaines, mais le livre ne fournit pas un manuel de diagnostic psychologique immédiat. Ces catégories risquent de devenir réductrices si elles sont appliquées mécaniquement ou si elles effacent les conditions historiques de production des œuvres. La lecture la plus féconde tient ensemble structure et contexte. Elle utilise les régimes comme des hypothèses de travail, vérifiées par le mouvement propre du texte, du rite ou de l'image étudiée. Ainsi, la méthode durandienne reste une discipline de comparaison raisonnée plutôt qu'un dictionnaire universel des symboles. En conclusion, cet ouvrage convient en priorité aux étudiants, chercheurs et lecteurs déjà disposés à suivre une argumentation théorique exigeante en anthropologie, philosophie, histoire des religions, analyse littéraire ou psychologie des profondeurs. Il peut aussi intéresser les créateurs et critiques qui cherchent un vocabulaire précis pour décrire les réseaux de images dans une œuvre, plutôt que de commenter les symboles de manière impressionniste. Le bénéfice intellectuel majeur réside dans l'apprentissage d'une lecture relationnelle. Une figure ne vaut pas isolément, mais par les gestes, les oppositions et les récits auxquels elle participe. Cette discipline rend possible une comparaison entre matériaux culturels éloignés sans les confondre entièrement. Le livre se distingue des guides de symbolisme par son ambition systématique. Il ne propose ni un répertoire de signification toute faite, ni une théorie uniquement fondée sur inconscient individuel. Sa spécificité est de relier physiologie, expérience affective, mythologie et forme sociale dans le concept de trajet anthropologique. Il se distingue également de analyse strictement historique par attention portée aux permanences formelles de l'imagination. Cette ambition explique sa forte influence, mais aussi sa difficulté. Les classifications demandent une lecture lente et une vigilance constante contre les simplifications. La 12e édition reste ainsi une référence pour comprendre comment les sociétés imaginent le temps, la mort, le conflit, le refuge et le renouveau. Elle est particulièrement précieuse pour qui veut analyser les mythes et les œuvres comme des organisations cohérentes de l'image, porteuses de logiques propres. Si vous souhaitez soutenir Gilbert Durant, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.